Oui.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, nous sommes le mardi... combien ? On est le mardi combien, Françoise ? 27 ?
Oui, je crois, le 27.
Mardi 27 septembre, et donc c'est la deuxième...
27
septembre.
Octobre.
Bien sûr. Et donc, c'est la dernière émission du mois d'octobre d'Amnesty International. On est ensemble pour une heure, jusqu'à 20h, pour vous parler de droits humains et de tout ce qui t'y rattache et de beaucoup de sujets. Entre autres, ce soir, on va vous parler des droits de l'avortement en Pologne. On va vous faire des témoignages de thérapeutes et de médecins qui sont en première ligne pour lutter contre la pandémie. On va aussi vous parler d'une prisonnière d'opinion en Iran. On va vous parler du G20 qui a lieu, le groupement des pays les plus riches du monde qui a lieu bientôt à la fin du mois prochain en Arabie Saoudite. On a déjà une action à vous proposer. Enfin bref, beaucoup, beaucoup de choses. Et aussi, je crois, un sujet dont on ne vous a jamais parlé, mais vous allez comprendre pourquoi on vous en parle. On va vous parler de jeux vidéo. Voilà. Et pour animer l'émission ce soir avec moi, il y a Françoise.
Bonsoir.
Et il y a Mina.
Bonsoir.
Voilà. Et je crois que pour commencer, Françoise avait quelques mots à vous dire à propos de l'horreur de l'attentat dont a été victime l'enseignant il n'y a pas si longtemps.
Oui, voilà. Je voulais vous dire le mot qu'Amnesty a titré à ce moment-là. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été sauvagement assassiné pour avoir accompli sa mission d'éducation. Nous exprimons notre totale solidarité et nos profondes compassions à sa famille, à ses proches, à ses collègues et à ses élèves, et condamnons avec la plus grande force ce crime insupportable. Samuel Paty est mort pour avoir voulu enseigner à ses élèves l'esprit critique, la diversité de points de vue et les notions essentielles de liberté d'opinion, d'expression et de conscience, sans lesquelles il n'y a pas d'état de droit. En ciblant cet enseignant, son assassin a voulu s'attaquer à la liberté d'expression, pierre angulaire de notre société. Nous devons défendre sans relâche cette liberté. Elle autorise la critique d'une opinion, d'un courant de pensée, d'une religion, y compris à travers le blasphème. Elle implique donc d'accepter d'être choqué, perturbé, voire offensé. Enseigner ces exigences est fondamental, et cette tragédie doit renforcer notre détermination à protéger la liberté d'expression sous toutes ses formes. Selon le droit international, et plus particulièrement l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'une des limites essentielles à cette liberté est « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse » qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence, c'est à l'État de garantir à tous et toutes la possibilité de jouir de ces libertés sans crainte. Cet acte atroce a été commis par un criminel animé par une idéologie mortifère. Les éventuels complices devront répondre de leurs actes et être jugés dans le respect du droit. Cette attaque nous met à nouveau à l'épreuve. Nous devons résister à la tentation de la division et de l'hostilité qui ferait le jeu de ceux qui commettent ou inspirent de tels actes. Nous devons plus que jamais garder comme repère nos valeurs et principes, ceux de l'état de droit, de la justice, de la liberté et de l'égalité de tous et de toutes. C'est la seule manière de répondre à la haine, à la violence et à la discrimination. Dans cette période d'instabilité et d'inquiétude, le respect des droits humains doit plus que jamais rester notre boussole, même face aux attaques les plus odieuses. On ne combat pas la haine par la haine. On ne combat pas l'intolérance par plus d'intolérance. On en triomphe en garantissant le respect des droits de tous et de toutes. Les droits humains nous protègent, protégeons-les.
Voilà, donc ça c'était le communiqué publié par Amnesty, et qui, bon, bien sûr, pour lesquels on ne peut que, je pense, tous être entièrement d'accord sur la tenue des propos. Et bien évidemment que ce genre de crime absolument barbare, rien ne saurait le justifier, absolument rien. Et en lien par rapport à ça, alors on va vous faire écouter un son qui est en fait sur le site d'Amnesty, c'est le son d'une vidéo, mais bien sûr quand on est à la radio, vous n'aurez que le son, mais ça se suffit à lui-même, hein, le son d'une vidéo qui traite d'un thème en rapport avec ce que vient de vous dire Françoise, qui est en fait la lutte contre les discours, ce que Amnesty appelle les discours toxiques, sur les réseaux sociaux principalement, mais pas que. Les réseaux sociaux, ils peuvent servir à faire de très très belles choses, mais ils peuvent aussi servir trop souvent à véhiculer la haine, l'appel au meurtre et tout ce qui est, pour parler simplement, tout ce qui est au trait aux différents bourrages de crâne. Et Dieu sait que c'est facile de bourrer la tête des gens. Et donc, voilà. Donc, ces discours toxiques, tels que les appelle Amnesty. Amnesty a fait une vidéo pour expliquer très simplement ce qu'ils étaient, ce qu'ils véhiculaient comme atteinte aux droits humains fondamentaux et ce qu'on pouvait faire pour essayer de lutter contre. Et comme je sais que parmi toutes celles et ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui sont une partie de leur temps, comme nous-mêmes, sur ces réseaux sociaux, je pense que c'est important d'avoir ces notions-là. Donc ça dure une petite dizaine de minutes, mais écoutez bien effectivement parce que c'est important.
Les discours toxiques. Commentaires homophobes sur YouTube, hashtag raciste et harcèlement sexiste sur Twitter, appel au rassemblement anti-réfugiés, propos anti-musulmans sur Facebook, ce ne sont que quelques exemples des contenus que l'on peut voir fleurir sur les réseaux sociaux. Sur la toile, ces messages de haine se répandent rapidement. Ils agissent comme un poison toxique qui véhicule des stéréotypes et des idées reçues et crée un climat hostile aux droits humains. Amnesty International considère comme discours toxique toute forme d'expression stigmatisant ou traitant différemment et de manière défavorable des personnes en raison de caractéristiques réelles ou supposées, telles que l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la religion, le handicap, etc. Et les conséquences de ces discours sont évidemment nombreuses et dramatiques. Pour les personnes ciblées, cela se traduit par un sentiment d'insécurité, une perte de confiance en soi ou de l'isolement pour les effets les plus courants. Cela peut renforcer un sentiment de marginalisation sociale chez des personnes déjà vulnérables, pouvant conduire à la dépression, voire même parfois au suicide.
Quand j'ai vu le nombre de messages postés et leur fréquence, j'ai été submergé par un sentiment de peur et d'insécurité.
On m'a visé tout particulièrement parce que j'étais juive, et on m'a dit que je devais être brûlée vive dans un four. Des groupes organisés de nazis ont tweeté qu'ils m'avaient à l'œil, et c'était horrible.
Je reçois des menaces de mort environ 2 fois par semaine, juste parce que je crois en l'idée que tout le monde devrait avoir accès aux moyens de contraception, à une couverture médicale et à la possibilité d'avorter.
Le cyberharcèlement qui vise certains militants et militantes peut aussi les pousser à s'autocensurer par peur des représailles. Les menaces et propos haineux limitent la capacité des internautes à agir et à défendre leurs droits. Ils ont donc un impact négatif sur la qualité de vie démocratique et sur les droits humains. En étant diffusés très massivement et à grande échelle sur Internet, les discours toxiques véhiculent l'idée que les opinions et l'hostilité qu'ils expriment sont partagées par beaucoup. Qu'ils soient formulés de façon explicite ou subliminale, ils renforcent la stigmatisation de certains groupes. Avec le temps, cela peut favoriser l'émergence de comportements discriminatoires de plus en plus violents, comme les persécutions ou encore les crimes de haine. Nous l'avons vu dans le passé, les médias peuvent jouer un rôle important dans l'installation des climats de haine envers certaines communautés. La propagande antisémite diffusée dans les journaux durant la Seconde Guerre mondiale, ou encore les appels au meurtre des Tutsis à la radio au Rwanda, ont été reconnus comme des éléments déterminants ayant conduit au génocide. Aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux représentent pour beaucoup d'entre nous une source d'information importante. Ils ont une influence sur nos perceptions et sur les représentations que l'on se fait de certaines personnes ou de certains groupes. Des propos haineux sur Internet peuvent donc avoir des répercussions bien concrètes hors ligne. Par exemple, au Myanmar, la mission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits humains commises a mis en évidence le rôle joué par les recours à Facebook dans la dissémination des discours toxiques contre les Rohingyas. Certains invoquent leur droit à la liberté d'expression pour pouvoir déverser leur haine sur les réseaux sociaux. Nous posons donc la question, peut-on vraiment tout dire au nom de la liberté d'expression ? Au niveau international, la liberté d'expression est inscrite à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Toutefois, l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. En France aussi, le Code pénal et la loi sur la liberté de la presse de 1881, qui fixe le cadre de la liberté d'expression, prévoit certaines limites. Porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui, l'injure, la diffamation, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, l'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage, du terrorisme, et la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité sont interdits par la loi. Sur Internet, la quantité des messages et leur diffusion rapide et virale rendent difficile l'application de ces lois et contribuent à donner un sentiment d'impunité aux auteurs de ces propos souvent anonymes. De plus, les dispositifs mis en place par les réseaux sociaux pour permettre aux usagers de signaler les contenus problématiques semblent également bien souvent inefficaces. Alors que faire ? Des actions existent pour faire entendre d'autres voix et lutter contre les discours toxiques en ligne, sans pour autant restreindre la liberté d'expression. Tout d'abord, et cela semble être le plus évident, il est important de s'informer et de montrer sa solidarité. Les mobilisations citoyennes et les mouvements sociaux comme les hashtags Black Lives Matter et MeToo, qui ont vu les témoignages d'anonymes se répandre sur la toile et libérer la parole de milliers d'autres, permettent de dénoncer à grande échelle les propos, les discriminations et les violences que subissent certains groupes. Soutenir ces mouvements, relayer leurs messages et donner de la visibilité à la parole de celles et ceux qui tentent de défendre leurs droits, c'est la première étape indispensable pour lutter contre la haine dont ces personnes peuvent faire l'objet. Il est aussi important que les plateformes et les réseaux sociaux prennent leurs responsabilités pour faire respecter la dignité de leurs usagers et usagères. Nous avons par exemple interpellé Twitter pour qu'il réagisse aux nombreuses plaintes de personnes ayant subi des propos violents et du harcèlement sexiste sur la plateforme. Il est important de proposer des contre-discours afin de discréditer et déconstruire les arguments ou les idées qui viennent alimenter la haine envers certains individus ou certains groupes. Vous pouvez aussi construire des récits alternatifs afin de promouvoir des messages positifs et favorables aux droits humains. Vous vous opposez à la haine envers les réfugiés, montrez-le. Vous ne supportez plus le sexisme et l'homophobie omniprésents sur les réseaux sociaux, alors faites-le savoir. Pour que la haine ne se banalise pas, il est important de nous mobiliser. Internet est un formidable outil pour rassembler, créer et étendre les réseaux. Face à la multitude de discours toxiques, chaque internaute qui agit contribue à la défense d'un monde où les droits humains de chaque personne sont respectés. Car comme le disait Angela Davis, « Je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer, je change les choses que je ne peux pas accepter. »
Voilà, donc c'était le son de cette petite vidéo sur les discours toxiques. Je pense que c'est un bon résumé et aussi les propositions qui sont faites à la fin sont tout à fait intéressantes. C'est à chacun d'entre nous, là où on est, avec les gens avec qui on est, de démonter les discours qu'on peut entendre ou dont on a pu avoir connaissance. Ça, c'est important, c'est la première action et ça, n'importe qui peut le faire n'importe où, tout le temps. Et d'argumenter en disant qu'effectivement, les discours toxiques, donc les discours d'appel à la violence, à la haine, à la discrimination, enfin tout ce que ce petit son, entre guillemets, vous a rappelé, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre du quotidien, du travail du quotidien. Parce que, encore une fois, tous ces discours à la violence, et on sait très bien que ça commence, où ça commence et comment ça commence. Par des propos entre guillemets ou provocateurs ou qu'on considère comme anodins. Et comme Françoise vous disait, comme l'actualité récente l'a prouvé, ça peut finir aussi par un enseignant décapité. Voilà, donc on va, après cette petite introduction à l'émission, mais surtout ne quittez pas l'antenne parce qu'on se retrouve juste après. On va vous passer un petit peu de musique.
Et nous venons d'écouter Walk of Life de Dire Straits. Maintenant, passons à la rubrique culturelle. Oui, Didier ?
Non, vas-y.
Il fait la danse devant moi, Didier. La rubrique culturelle. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer, déjà je vais rebondir sur le sujet qu'on a parlé avant... Avant la coupure musicale sur les discours toxiques, là, c'est une BD que je vais vous proposer sur le cyberharcèlement qui s'appelle L'Internet de la haine aux éditions Cambourakis de Amy Nieminen et de la journaliste Johanna Vekou, qui ça se passe en Finlande. Cette BD n'est malheureusement pas une fiction composée de témoignages d'investigation, de documentation et de conseils. Ce livre rend compte d'un phénomène souvent sous-estimé mais très répandu, le cyberharcèlement, qui touche principalement des femmes et des minorités. À lire absolument, c'est très documenté, un peu long mais vraiment très intéressant sur comment on peut s'attaquer à des gens derrière son écran qui, comme pour ne disent que ce qui se passe et défendent leurs droits. Maintenant, deux autres BD. Alors, attention, c'est ma BD, coup de cœur, émotionnel, tout ce que vous voulez. Amnesty est en partenariat aussi sur cette BD. Je crois que les BD concerts ne se sont pas encore faits à cause du confinement, du Covid et tout ça. Ça s'appelle « Les oiseaux ne se retournent pas » de Nadia Naclet aux éditions Delcourt. Au moins, un quart des personnes exilées en Europe sont des mineurs isolés. Ils fuient la même barbarie que les adultes. Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant qui échappe à la guerre? C'est la question qui traverse ce récit. Alors, le synopsis. Un jour, la décision a été prise. Amel, orpheline de 12 ans, partira. Il n'est pas ici question de choix, son pays est en guerre. Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu. À la frontière, Amel perd la famille chargée de l'accompagner et se retrouve seule. Sur sa route, elle rencontre Bassem, un déserteur et joueur de oud. Ensemble, l'enfant et le soldat apprennent à se reconstruire. Donc c'est une très belle BD, pleine de calligraphie, de couleurs, de poésie. Donc on aura des citations de Mahmoud Darwish, par exemple, d'un autre poète, sur un poème aux oiseaux, mais là, je n'ai pas le nom. Et le projet qui a été fait autour de cette BD, à sa sortie, c'est de faire aussi des BD-concerts. Donc, autour des textes de la BD, il y aurait des images projetées, plus la musique du oud autour. Mais du coup, je ne sais pas si ça s'est encore fait. Donc, renseignez-vous, allez voir sur Internet. Je pense que ça doit être magnifique. Et ma petite dernière BD pour le mois d'octobre, là c'est sur les femmes réfugiées en France, ça s'appelle « Et pourtant elle danse » de Vincent Ginda aux éditions des Ronds dans l'eau. Marie-Noël, Denise, Asiat, Odile, Lisana, Emina ou encore Augustine et d'autres, toutes femmes réfugiées en France se retrouvent à l'association Femmes en lutte à Valence et se sont confiées sur les raisons qui les ont contraintes à quitter leur pays, souvent pour leur survie, laissant parfois leurs proches et leurs biens derrière elles. Portant le poids d'une culpabilité qui ne les quittera pas, elles évoquent les violences subies, les tortures au travers de leurs témoignages, affichent leur courage et transmettent malgré tout un message de paix. Elles chantent, dansent, peignent et sourient. Présent dans l'association pendant cette année, Vincent Ginda les a accompagnés. Donc voilà, c'est une BD qui retransmet les témoignages. Et c'est très beau aussi. Voilà.
Tu nous rappelles les titres?
Oui, tout ça pour dire que c'est des BD qui vous permettent de vous faire un petit peu un parcours d'exil à la place d'eux. Par exemple, les oiseaux ne se retournent pas de Nadia Naclet. J'étais vraiment à la place de la petite Amel qui a dû s'appeler Nina pour pas, avec les faux papiers et tout ça, pour pas se faire attraper. Je me suis dit, mais moi, dans cette situation-là, mais je serais terrorisée. 12 ans, je dois traverser les pays. Donc, c'est bien de lire des BD ou d'écouter des émissions pour comprendre aussi. Et pourtant, elle danse. On est à la place de ces femmes qui ont dû tout quitter et qui sont déracinées, mais qui essaient toujours de lutter, malgré les violences qu'elles ont subies. Déjà, le fait de partir de chez elles, c'est un déracinement, innommable. Et l'Internet de la haine, c'est encore beaucoup sur les femmes, les minorités, et c'est comment du jour au lendemain, derrière son écran, juste parce qu'on a eu envie de défendre son opinion, on va se faire casser du sucre, et se faire harceler, et aller voir la police, et se dire « mais non, c'est rien ».
plein de choses qui ont été dénoncées en Finlande et il y a eu des projets de loi qui sont sortis. Des... Mais bon, ça met toujours du temps. Alors, à la place d'eux, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais il faut lire ces BD pour comprendre, savoir et avancer.
Mais oui.
Bah, merci Mina. Merci Mina, parce qu'effectivement, lire ce genre de choses, c'est aussi prendre conscience, s'éduquer, en parler autour de soi, c'est important, comme on disait effectivement. Il faut sans arrêt, rappeler que seul le droit et le respect des droits des gens permettent de vivre dans une société digne. Voilà. Moi, je vais vous parler de... Alors, on va changer de sujet complètement. Sans transition, comme il y avait des gens qui disaient ça à la télévision, maintenant, sans transition, on va vous parler d'un sujet complètement différent. Le week-end du... Je regardais mon calendrier. Oui, c'est le week-end du 17-18, je ne voulais pas vous dire de bêtises. Le week-end du 17-18 octobre a eu lieu. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens d'entre vous qui nous écoutaient, qui sont au courant. Moi, pas trop, parce que j'avoue que je ne joue pas aux jeux vidéo en ligne. Mais enfin, il y a quand même pas mal de gens qui le font. Et il y a donc un espèce d'événement qui s'est produit donc, le 17 et le 18, qui s'appelle Z Event. Et donc, c'est un espèce de marathon de jeux vidéo pendant 2 jours. Enfin, ça commence le vendredi soir et ça se termine le dimanche soir. Et chaque année, les gens qui ont lancé ça, c'est un des spécialistes de ce genre de choses qui sont à Montpellier, les gens qui ont lancé ça, en fait, font des appels aussi aux dons, un peu l'idée du Téléthon, quoi, si on veut, font des appels aux dons pour des causes qui leur paraissent importantes. Donc, il y a eu Médecins Sans Frontières, il y a les années précédentes, il y a eu l'année dernière l'Institut Pasteur. Voilà, c'est ça, Françoise me soufflait, l'Institut Pasteur. Et cette année, c'était Amnesty International qui avait été sélectionné. Et donc, on a eu une très très bonne surprise, mais plutôt que de vous dire des choses approximatives, je vais vous lire le petit communiqué qui est paru dès le lendemain sur le site d'Amnesty. On ne vous l'a pas dit, mais enfin, on vous le répète à chaque fois. Pour toutes ces informations, vous avez une mine d'informations inépuisable qui s'appelle sur Internet, qui s'appelle Amnesty, avec un Y à la fin, .fr. C'est le site français. Donc voilà le petit communiqué. De la joie, des cris, des rires. Le Z-Event 2020 a été pour nous une expérience unique et formidable. Alors, 100 724 377 euros ont été collectés en un week-end au profit de notre association. Un record historique pour le marathon des jeux vidéo caritatifs. Et une vraie chance pour nous. Cet argent est essentiel pour poursuivre notre combat pour la protection et la défense des droits humains. Pendant 55 heures, 41 streamers... Bon, c'est des gens qui sont à la tête des jeux, enfin qui animent les jeux, si j'ai bien compris, et des dizaines de milliers de viewers, c'est les gens qui y participent, ont répondu présents pour relever le défi lancé par The Event. Tout le week-end, leur communauté et leurs followers, il y a beaucoup de franglais dans le texte, se sont mobilisés de manière festive sur la plateforme de jeux en ligne Twitch pour inciter le plus grand nombre à verser de l'argent au profit de notre association. Et le résultat est aussi incroyable qu'historique. 120 000 t-shirts ont été vendus pendant l'événement et 5 724 000 euros récoltés au total. Une nouvelle preuve que chaque euro compte. Ensemble, les petits dons deviennent grands. Par le passé, plusieurs associations ou fondations ont pu bénéficier de cet événement, avec la somme jusque-là record de 3,5 millions d'euros collectés l'an passé pour l'Institut Pasteur, comme on vous disait. Cette année, c'est la première fois que les fonds atteignent une telle ampleur. Et c'est la première fois qu'ils étaient collectés pour une organisation de défense des droits humains, la nôtre. Nous tenons à remercier une nouvelle fois Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, les fondateurs de cet événement, les donateurs, et ils sont nombreux, les streamers et toute l'équipe du Z Event. Merci d'avoir choisi notre association pour cette 5e édition. Merci à toutes et tous de nous avoir amenés aussi loin. Chaque don collecté permettra d'enquêter sur le terrain pour détecter et révéler les violations des droits humains, d'alerter pour faire pression sur les autorités afin que les auteurs de violations des droits humains soient poursuivis et condamnés, d'agir en diffusant des rapports et mobilisant nos militants pour dénoncer les atteintes aux droits humains et soutenir ceux qui en sont victimes. Actuellement, nous travaillons par exemple sur la question des violences policières et du harcèlement judiciaire des manifestants en France, ou encore à dénoncer la vente d'armes à une coalition saoudienne suspectée de commerce de crimes de guerre au Yémen. Et l'Arabie saoudite, je vais vous en parler, je crois, si j'ai bien compris, en plus, juste après. C'était ça. Donc, la fin du communiqué, une chose est sûre, plus que jamais, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Donc, effectivement, pour faire lien par rapport à ce qui vient d'être dit, je voulais vous parler effectivement de l'Arabie Saoudite. Alors, sur un autre plan, on vous a parlé déjà depuis qu'on a repris nos émissions au mois de septembre. La dernière fois, j'avais développé un dossier assez long sur les ventes d'armes de la France à l'Arabie Saoudite. Non, j'ai des hésitations, Mila, c'est comme tout à l'heure, c'est parce que j'ai des coupures dans mon casque. Pas sur l'antenne, mais dans mon casque.
D'accord, voilà. Didier.
Juste pour ça, donc c'est un peu perturbant.
Pas de souci.
Donc voilà, alors en fait, il y a deux événements. Il y a le G20, qui est présidé par l'Arabie Saoudite, qui va se tenir fin novembre. Le G20, c'est la réunion des 20 pays les plus riches du monde, où on discute de l'avenir de la planète, si j'ai bien compris. Et il y a un autre événement qui a été créé, qui s'appelle le B20, qui se tient en fait, et qui se termine ce soir, qui s'est tenu aujourd'hui et hier. Et donc, en fait, le B20, c'est une réunion, non pas d'États, mais là, de grandes entreprises des États membres du G20, et qui vont discuter des thèmes qu'ils voudraient voir développés ou des décisions qu'ils souhaiteraient voir prises lors de la réunion du G20, donc fin novembre. Et cette année, l'Arabie Saoudite a mis en avant le fait que, chez eux, tenez-vous bien, l'Arabie Saoudite, le gouvernement d'Arabie Saoudite se prétend défendre les droits des femmes de façon très soutenue maintenant. Et donc Amnesty a fait le communiqué suivant que je vais vous lire. Tandis que le sommet du B20 présidé par l'Arabie Saoudite doit se tenir les 26 et 27, donc en ce moment, nous rappelons aux dirigeants économiques que de nombreuses défenseurs des droits des femmes parmi les plus courageuses du pays sont en prison pour avoir osé réclamer des réformes. Nous demandons aux grands dirigeants d'entreprise de montrer qu'ils accordent autant d'importance aux droits humains qu'aux opportunités commerciales. Depuis qu'elle préside le G20, l'Arabie Saoudite a déployé beaucoup d'efforts afin de changer son image, lançant des slogans sur la parité et assurant qu'elle était prête pour le changement. Pendant ce temps, les véritables agents du changement en Arabie Saoudite sont derrière les barreaux, explique Lynn Malouf, notre directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les membres du B20 ne doivent pas se laisser abuser par cette hypocrisie éhontée. Le B20 réunit les plus grosses entreprises des pays membres du G20, présidé donc cette année par l'Arabie Saoudite, afin que celles-ci fassent leurs recommandations pour le sommet principal. Parmi les participants en vue cette année figurent des représentants de HSBC, Mastercard, PwC, ça je ne connais pas, McKinsey, Cisco, Eni, Siemens, Accenture, BBVA ou encore des entreprises françaises comme L'Oréal, Total, L'Air Liquide, Hermès et BNP Paribas. Si l'Arabie Saoudite vante des réformes récentes telles que l'assouplissement des restrictions sociales et du système de tutelle afin d'obtenir l'approbation des puissants au sein du B20, des militantes en faveur des droits des femmes sont toujours maintenues en détention. Loujain Al-Atloub, Nassina Al-Sada, Nassar Badawi, Mia Al-Zanari et Niouf Abdulaziz sont en prison pour avoir pris la tête de campagne en faveur des droits des femmes. Elles ont notamment lutté pour que des femmes obtiennent le droit de conduire ou pour mettre fin au système répressif de tutelle masculine. L'Arabie Saoudite communique aisément sur le fait que cette année, 33% des délégués envoyés au B20 étaient des femmes, la proportion la plus élevée à ce jour. Le site internet dédié au B20 affirme même que la place des femmes dans les entreprises sera la thématique phare de la présidence saoudienne et en fait l'une des questions prioritaires du sommet. Mais ces effets d'annonce ne sont que des points culminants d'une opération agressive et cynique de relations publiques menée sous l'égide du prince héritier Mohamed Ben Salman. Après l'annonce du plan relatif à Vision 2030 qui promet l'égalité des chances en Arabie Saoudite, les femmes se sont vues accorder le droit de conduire en juin 2018, une avancée qui offre un minimum de liberté et d'indépendance aux femmes et permet de faire un pas en avant vers l'égalité des opportunités d'emploi. Mais en parallèle, quelques semaines à peine avant l'annonce de ces changements, les autorités ont mené une terrible campagne de répression contre les défenseurs des droits humains et ont arrêté un grand nombre de personnes mobilisées en faveur du droit des femmes de conduire. 13 défenseurs des droits des femmes doivent encore être jugés pour leur militantisme. Plusieurs d'entre elles sont accusées d'avoir contacté les médias étrangers ou des organisations internationales, y compris la nôtre. Certaines, bon alors là il y a plusieurs noms, alors je vais, comme c'est pas Mina qui les lit, je vais vous en dispenser parce que bon c'est un peu compliqué. Enfin, certaines ont également été inculpées après avoir fait campagne pour les droits des femmes et pour l'abandon du système de tutelle masculine. Je rappelle qu'en Arabie Saoudite, les femmes, par exemple, n'ont toujours pas le droit d'ouvrir un compte en banque toutes seules. De façon systématique, les autorités saoudiennes continuent à réduire la contestation au silence et à étouffer la liberté d'expression. Elles utilisent le tribunal pénal spécial afin de s'en prendre aux économistes, enseignants, dignitaires, religieux, auteurs, militants et à toutes les personnes qui réclament des changements. Dans ce pays, les défenseurs des droits humains vivent sous la menace des arrestations arbitraires, des procès iniques et des actes de torture. Nous demandons aux dirigeants économiques du B20 de ne pas fermer les yeux sur ces violations. Toutes les entreprises ont le devoir de garantir qu'elles ne contribueront pas à des atteintes aux droits humains. Elles doivent faire preuve de la vigilance requise en relation avec ces droits afin d'identifier, de prévenir et de limiter les risques que représentent pour les droits humains leurs activités ainsi que les activités liées à leur chaîne d'approvisionnement et à leurs relations commerciales. Nous avons écrit aux entreprises participant au sommet B20 afin de faire état de notre vive inquiétude face aux risques posés par les activités commerciales en Arabie Saoudite et avec ces pays et afin de leur rappeler leurs responsabilités en matière de droits humains. Alors donc, l'article se termine en rappelant, donc il y a un appel à la pétition que vous pouvez toujours signer, hein, qui est encore disponible tous les jours suivants. Et donc il y a un appel à la pétition vis-à-vis de M. Macron pour l'engagement vis-à-vis du G20 qui donc va avoir lieu d'ici la fin du mois de novembre. Et donc le communiqué dit la chose suivante et il se termine avec ça. M. Macron, agissez pour les défenseurs des droits humains. Les 20 et 22 novembre 2020, l'Arabie Saoudite présidera le sommet du G20 alors que presque toutes celles et ceux qui luttent pour les droits humains dans ce pays sont soit en prison, soit en exil. Depuis 2 ans, la France déclare faire de la protection des défenseurs des droits humains une priorité. Le G20 doit être une occasion de passer des paroles aux actes. Donc voilà, c'est la pétition qu'on vous demande de signer sur le site d'Amnesty. Ça vous prend 30 secondes. Sur la page d'accueil d'amnesty.fr, vous avez l'onglet pétition et vous tombez dessus très facilement. Voilà. Donc, ça me paraissait important de vous lire ce communiqué parce qu'en plus, bon, comme je vous disais au début, ça fait aussi écho à la campagne que nous menons actuellement contre les ventes d'armes faites par la France à l'Arabie Saoudite. Et je crois que Mina voulait reprendre la parole.
Oui, suite à ton intervention, on va continuer sur le thème des femmes et de la Pologne qui s'attaque au droit à l'avortement. En ce qui concerne l'avortement, la Pologne a l'une des législations les plus restrictives en Europe. Aujourd'hui, elle va un cran plus loin en restreignant davantage ce droit. Le 22 octobre 2020, un arrêt du tribunal constitutionnel polonais a jugé l'avortement anticonstitutionnel en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable potentiellement mortelle pour le fœtus. Cet arrêt est très dangereux pour la santé et la vie des femmes. Il représente un retour en arrière pour les droits des femmes à des soins de santé sexuelle et reproductive. Cet arrêt est le résultat d'une vague d'attaques systématiques et coordonnées menées par les législateurs polonais contre les droits fondamentaux des femmes. Il représente leur dernière tentative en date d'interdire l'avortement. L'interdiction de l'avortement par la loi ne réduit pas le nombre d'avortements, elle ne fait que nuire à la santé des femmes en les obligeant à y recourir clandestinement ou à aller à l'étranger pour accéder aux soins d'interruption de grossesse. Cette décision cruelle affecte toutes les femmes, mais les femmes marginalisées qui n'ont pas les moyens financiers d'aller à l'étranger en pâtiront de façon disproportionnée. La Pologne est l'un des seuls pays membres de l'Union européenne n'autorisant pas l'avortement à la demande d'une femme ou pour des raisons socio-économiques au sens large. La législation polonaise prévoit que l'avortement n'est autorisé que pour protéger la vie ou la santé des femmes ou quand la grossesse résulte d'un viol. Jusqu'à l'arrêt de ce jour, il était également légal en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladie incurable potentiellement mortelle pour le fœtus. Même dans les situations où l'avortement est légal, de multiples obstacles restreignent fortement l'accès à ces soins dans la pratique. Le parti Droit et Justice au pouvoir s'est de façon répétée orienté vers des restrictions toujours plus sévères des droits liés à la santé sexuelle et reproductive, y compris avec un projet de loi qui visait à interdire totalement l'avortement. Ces initiatives ont déclenché des mouvements massifs de protestation au sein de la population et ont été condamnées par des organes internationaux de défense des droits humains et des institutions européennes. Voici pour cette nouvelle information désobligeante.
Mais c'est, oui, c'est même plus que désobligeant, quoi. C'est, enfin, j'ai envie de dire, oui, il y a Françoise qui me fait signe qu'on va vous passer effectivement quelques...
Elle a envie de faire une carrière...
Un petit peu de musique.
Dans le piano.
Juste après, mais c'est plus que désobligeant, quoi. C'est vraiment des décisions dont on ne comprend absolument pas la logique, quoi. Interdire l'avortement alors qu'on sait que le bébé... est gravement atteint et que de toute façon ce sera qu'une vie de calvaire aussi bien pour lui que pour sa mère, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Voilà. Malheureusement, c'est ce qui vient d'être décidé en Pologne, et la Pologne fait partie de la communauté européenne, je le rappelle. Voilà. Donc effectivement, oui Françoise, on va écouter un peu de musique.
Un peu de musique.
Day is long, and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Let yourself go. As everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Time to sing along when your day is night. Hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. Everybody hurts. Take comfort in your prayers. Everybody hurts. Don't throw your hand.
Donc de retour sur l'antenne de Principe Actif, c'est Amnesty International, pour la dernière partie de son émission de la fin du mois d'octobre. Et on vient d'écouter R.E.M., Everybody Hurts, un vieux morceau, mais que Mina a reconnu pendant qu'on passait le morceau dans le studio. Voilà, yes. Bravo Mina, alors que c'est moi qui avais amené le disque.
Eh oui.
François, je crois vous parler,
oui,
vous parler d'une action qui est très très urgente.
Oui, une action qui se termine au 31 octobre. Donc, vous avez encore quelques jours pour la faire. Mais et voilà, c'est pour libérer les militants du Hirak en détention en Algérie. En février 2019, le Hirak, un mouvement pacifique, a vu le jour en Algérie. pour avoir participé à la vague de manifestations en faveur de réformes politiques radicales dans le pays, les militants ont été confrontés à la répression du gouvernement. Entre le 7 mars et le 13 avril, au moins 20 militants du Hirak ont été interrogés par la police ou placés en détention provisoire ou condamnés. Au moins 32 personnes arrêtées de manière arbitraire pendant les manifestations du Hirak sont aujourd'hui encore derrière les barreaux. Les autorités les sanctionnent ainsi pour avoir fait usage de leur liberté d'expression et dans le même temps, elles mettent en péril leur santé étant donné les risques de propagation du Covid en prison. Donc, on vous demande de signer la pétition et de demander aux autorités de mettre fin à la répression. Alors, vous avez cette pétition sur le site d'Amnesty.
D'accord. Tu rappelles juste le nom des gens qui sont concernés, la répression, c'est en Algérie.
C'est les libérer les militants du Hirak en détention en Algérie.
D'accord, ok. Tu avais autre chose, François ?
Oui, j'avais autre chose.
Vas-y.
Je voulais vous signaler simplement que les élus européens et américains exhortent le président égyptien à libérer les prisonniers d'opinion. Avec cette autre association, nous saluons le message fort lancé par des parlementaires européens et américains demandant la libération des prisonniers d'opinion en Égypte. En début de semaine, plus de 278 législateurs européens et américains ont envoyé des lettres ouvertes au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Ces lettres envoient un message fort dénonçant la situation des prisonniers d'opinion. L'inquiétude grandissant, 84 membres du Parlement européen, 138 membres des parlements nationaux de l'Union européenne et 56 membres du Congrès américain ont écrit au président al-Sissi pour l'inciter à mettre un terme à l'emprisonnement injuste des défenseurs et des défenseuses des droits humains, journalistes, avocats et activistes politiques détenus en Égypte simplement pour avoir exercé leurs droits humains. Les organisations signataires considèrent cet appel comme opportun et nécessaire pour répondre à la situation désastreuse des droits humains dans ce pays. Les organisations appellent les autorités égyptiennes à libérer immédiatement et de manière inconditionnelle toutes celles et tous ceux qui sont détenus simplement pour avoir exercé leurs droits. Il est grand temps que les autorités égyptiennes défendent les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique et mettent un terme à l'impunité concernant les sérieuses violations des droits humains. En cette période de la crise sanitaire accrue à la pandémie de Covid-19, les parlementaires ont exhorté l'Égypte à prioriser les droits humains des détenus. Les lettres, publiées aux États-Unis puis en Europe, font écho à des appels similaires émis précédemment cette année par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, les experts des Nations Unies en droits humains et les institutions sanitaires internationales. Elles démontrent l'inquiétude croissante relative au climat d'impunité dominante en Égypte. Les lettres sont publiées alors que la détérioration des droits humains se poursuit et ce quelques semaines après l'utilisation par les autorités égyptiennes d'un usage illégal de la force, d'arrestation de masse et de la censure pour faire taire les protestations contre une situation économique qui se dégrade. Malgré le risque important pour leur vie, sécurité et liberté, les Égyptiens continuent de faire entendre leur voix. Le gouvernement a également instrumentalisé la pandémie de Covid-19 pour restreindre davantage les libertés fondamentales et sévir contre toutes les critiques, relatives à la gestion de la crise sanitaire. Certains des prisonniers d'opinion mentionnés dans ces lettres, comme Rami Saad et Ziad El-Haimi, ont passé plus d'une année en détention préventive pour leur activisme pacifique. Des avocats des droits humains comme Mohamed Al-Bekher et Mayarour Al-Marsi, cités dans les lettres, sont des cibles et ont été emprisonnés pour avoir représenté des disparus de force ou des victimes de détention préventive. Des journalistes aussi ont été détenus pour leurs opinions ou reportages critiques, privant ainsi le public de leur droit à l'information. Enfin, les lettres nomment également des chercheurs qui ont été incarcérés en raison de l'absence totale de tolérance des autorités pour l'activisme en faveur des droits humains. Et plusieurs associations ont fait des lettres à ce sujet.
Merci Françoise pour toutes ces informations. Moi, je voulais vous dire quelques mots. C'est aussi un communiqué qui est sur le site d'Amnesty qui date du milieu du mois d'octobre et qui se fait le relais un peu, qui se fait l'écho des difficultés que rencontrent dans de nombreux pays le personnel de soignants, pas seulement les médecins, mais tout le personnel soignant aussi, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les employés de maison, enfin, etc., par rapport à cette pandémie mondiale et tous les problèmes que ça pose, et aussi qui se fatiguent beaucoup, pas seulement parce qu'ils ont des horaires de travail absolument sans fin, mais aussi parce qu'ils en ont assez des promesses que les autorités, pas seulement françaises, mais aussi d'autres, mais aussi en France, des promesses que les autorités leur font par rapport à leurs conditions, l'amélioration de leurs conditions de travail, l'amélioration de leur salaire, enfin, etc., et qu'ils ne voient pas venir grand-chose. Et que voilà, c'est une crise qui se rajoute sur la crise de l'épidémie actuelle. Donc voilà quelques mots, je ne vais pas vous lire tout le communiqué parce qu'il est un peu long, mais il y a plusieurs cas qui sont cités, enfin plusieurs interviews qui sont suffisamment parlants. Donc voilà, je vais juste vous en dire quelques mots. Donc ils sont aides à domicile, employés de maisons de retraite, manipulateurs médicaux. La crise sanitaire met leur vie en danger, mais aussi leur santé mentale. Pénurie d'équipement, précarité, stress et horaires de travail exténuants ont un impact violent et largement sous-estimé sur la santé mentale de ces travailleurs essentiels, souvent restés dans l'ombre. Nous appelons, donc nous c'est Amnesty évidemment, appelons à un sursaut au niveau international pour les protéger. Alors par exemple, le cas d'une personne, c'est en Italie je crois, qui dit « J'ai appelé mon thérapeute une fois au beau milieu du chaos, mais j'ai senti que je ne pouvais pas parler. C'était comme ouvrir un barrage. Si je laisse sortir mes sentiments, je ne sais pas si je serai capable de refermer les vannes. » Anna-Lisa, donc c'est elle qui parlait, est employée dans une maison de retraite en Italie. En pleine pandémie, alors qu'elle s'inquiétait notamment de la pénurie d'équipements de protection individuelle, elle s'est mise à bégayer et à faire des cauchemars. « Je n'arrivais plus à le supporter, » témoigne-t-elle, « mais je devais attendre que mes collègues qui avaient contracté la maladie reviennent pour qu'il y ait un minimum de présence. Je ne voulais pas quitter un navire en perdition. » Un autre témoignage d'une certaine personne qui s'appelle Lali, bon, les noms ont été changés bien sûr, qui s'appelle Lali et c'est en France. Lali, elle, est aide-soignante à domicile en France, comme tous les soignants qui rendent visite aux patients chez eux. Elle a été exclue du système de prime jusqu'au mois d'août. Si ce système a depuis été étendu, elle continue de dénoncer des bas salaires et de mauvaises conditions de travail. Dans son secteur, où les femmes sont largement représentées, beaucoup ne gagnent même pas le salaire minimum, malgré des horaires souvent à rallonge. Lali travaille parfois de 6h du matin jusqu'à 21h pour aider des personnes fragiles à se doucher, à aller aux toilettes, à manger ou à s'habiller. Pour elle, le gouvernement français sous-estime clairement la pression que la pandémie exerce sur les membres de la profession. Elle craint qu'en cas de deuxième vague, petit commentaire personnel, bah visiblement on y est, de nombreux aides-soignants à domicile ne démissionnent. Bien. Il y a d'autres témoignages comme ça, mais bon, je ne vais pas tous les raconter, mais ils vont tous dans le même sens. Et donc un petit commentaire après d'Amnesty, et je m'en arrêterai là. Et Amnesty qui dit « Le dévouement des professionnels de santé est une leçon d'humilité, mais les qualifier de héros, comme certains ont dit, passe sous silence le fait que ce sont des êtres humains, et aucun être humain ne sort indemne après des mois à côtoyer la mort et la maladie pendant des heures interminables et exténuantes, et pour un salaire minimal. Si tout le monde a ressenti l'impact psychologique de la pandémie, nombreux sont les professionnels de santé qui ont été exposés à des traumatismes au quotidien et qui peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire. » Voilà, donc le communiqué continue après, mais donc il appelle... Amnesty appelle au niveau international, pas seulement français, effectivement, à ce que toutes les mesures soient prises par les autorités pour que la protection et des conditions de travail dignes de ces personnes-là soient vraiment prises en compte. Voilà. Bon, je crois que c'était un petit peu important de vous en parler. Et puis, bon, on va arriver au terme de l'émission. Bon, je voulais juste vous dire un mot aussi, on s'arrêtera là. Il y a toujours une action aussi qui se termine là, une deuxième action qui se termine là aussi le 31 octobre, donc à la fin de la semaine. Vous l'avez sur le site d'Amnesty, c'est pour demander la libération inconditionnelle d'une avocate iranienne qui a été condamnée à 33 ans, je crois, ou 34 ans de prison l'année dernière, qui s'appelle Nasrin Sotoudeh. On la défend depuis l'année dernière. Elle a fait une grève de la faim de plus de 40 jours, mais elle a dû l'arrêter parce qu'elle était trop faible. Et donc, elle est toujours. Aucune levée de peine n'a été prononcée pour l'instant. Et on demande bien évidemment sa libération immédiate. L'action est très simple à faire. Vous tapez Nasrin, ça s'écrit N-A-S-R-I-N, et Sotoudeh, ça s'écrit S-O-T-O-U-D-E-H, S-O-T-O-U-D-E-H. Vous tapez ça sur la page d'accueil, hein, vous avez un moteur de recherche et vous tombez sur l'action sans difficulté pour la trouver. Et on vous demande d'intervenir aussi bien par Twitter, par mail ou par courrier postaux auprès des autorités iraniennes pour demander la libération inconditionnelle et immédiate de Nasrin Sotoudeh. Voilà, on est inquiet pour sa santé et donc l'action est en ligne là, sur le site d'Amnesty France jusqu'au 31 octobre. Et puis, Françoise, tu nous dis quand est-ce qu'on se retrouve à l'antenne ?
C'était marqué, sur
le papier, je te le rends.
En novembre, voilà. On se retrouve en novembre, le mardi 10 novembre, veille du 11 novembre.
Mardi 10 novembre, en direct sur l'antenne de Principe Actif, à moins qu'il y ait des décisions contraires qui soient prises par les autorités, mais ça, vous le saurez aussi bien que nous. Mais enfin, normalement, on se retrouve le 10 novembre en direct à 19h. Voilà. Mm. Bonne soirée à tout le monde.
Bonsoir.
Et puis, à très bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience.